La première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Architecture. Établissement scolaire. Architecture, établissement scolaire à Herpan, province de Namur, et à Woluwe-Saint-Lambert à Bruxelles.
On est ici sur le site du collège Notre-Dame de la Paix à Herpan, un des plateaux au-dessus de Namur, mais qui est une zone qui se densifie en matière d'habitation de plus en plus. C'est vraiment une des zones d'extension de la ville de Namur. Et le collège, en fait, ici, avait besoin de surfaces complémentaires, à la fois avec la création d'une école maternelle, donc un nouveau bâtiment, pour une organisation pédagogique qui n'existait pas, donc c'est la création d'une nouvelle école, et à la fois pour une extension des locaux du secondaire, avec un bâtiment dédié aux premières secondaires. La dernière partie du projet est un bâtiment de sport, un hall sportif, et le collège vient de recevoir l'accord au niveau des subsides en région wallonne avec Infrasport. Le marché du hall sportif va donc être lancé ultérieurement. Pour l'instant, les deux premiers bâtiments sont en construction.
Architecture, établissement scolaire. À Herpan, collège Notre-Dame de la Paix. Avec Pascal Rayet, architecte.
C'est un marché que nous avons remporté début 2013. Comme tout marché public, ça prend un petit peu de temps, qui est en chantier maintenant depuis une dizaine de mois et qui se terminera vraisemblablement en fin d'année civile. Donc l'objectif de l'école, c'est à la rentrée scolaire de septembre à venir, c'est de commencer avec une école maternelle mais qui fonctionnera dans des modules préfabriqués et de s'installer dans les nouveaux locaux à partir du mois de janvier, donc après les vacances de Noël.
Et à une fois, j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse. Vous
allez où ? 11e.
Ces lieux nous parlent.
Le caractère parfaitement ouvert de ce site avec une simple barrière béton, un simple trait béton préfabriqué à 50 cm du sol, exprime justement le dialogue qui peut exister entre un établissement scolaire et son environnement bâti. Et je trouve que c'est fondamental. C'est même d'ailleurs un parallèle qu'on peut faire au niveau du bâti individuel. La tendance à s'enfermer, si on regarde culturellement, est très très variable d'un pays à l'autre. Moi, je suis toujours frappé en Suisse, par exemple, de voir comment on passe dans la pelouse du voisin sans s'en rendre compte. Comment en Espagne, dans certaines régions que j'ai pu rencontrer, connaître, on a pratiquement des barbelés autour des murs d'enceinte des maisons. Et je pense que la Belgique se trouve un petit peu entre les deux. Moi, je me bats pour qu'on soit raisonnable sur cette thématique-là. Et donc, il y a une sécurité, effectivement, qu'on évoque là, qui est une sécurité entre l'intérieur et l'extérieur du site. Après, il reste malgré tout des questions de sécurité interne au site, des questions de contrôle, ne fût-ce que visuel, des élèves, ont parfois également animé nos débats avec le maître d'ouvrage sur l'implantation des bâtiments, faire en sorte que les espaces dans lesquels les élèves vont pouvoir déambuler en dehors des heures de cours, les espaces extérieurs qui vont pouvoir être utilisés à cet effet, soient des espaces dégagés permettant un contrôle visuel relativement simple et rapide. Et enfin, à l'intérieur des bâtiments, la question de sécurité extrême, c'est-à-dire jusqu'à quel point doit-on protéger les enfants d'eux-mêmes sur des garde-corps, sur des escaliers, des choses comme ça, est une question qu'on aborde et on plaide, nous, pour un respect des normes, parce que ça, on y est tous tenus, mais certainement pas au-delà de ça, parce qu'il nous semble qu'elles sont déjà extrêmement rigoureuses. Et après, on plaide pour une confiance dans nos enfants et dans leur capacité à ne pas se mettre en danger eux-mêmes, enfin, dans leur conscience à cette précaution.
Architecture, établissement scolaire, par Thierry Genico.
Ce qui est très caractéristique, c'est qu'on est sur un site très très ouvert. Donc il y a très très peu de frontières entre l'extérieur et l'intérieur de l'école. Il y a pas mal de végétation et donc on est sur un espèce de mini campus. Donc c'est un site qui est relativement intéressant de ce point de vue-là. C'est également un site qui, dans ses bâtiments d'origine, qui date de la fin des années 70, si je ne dis pas de bêtises, a été construit en une seule fois et donc faisait preuve dès notre première visite d'une très très grande unité avec déjà des bâtiments existants qui étaient extrêmement fluides. On avait des structures très très libres avec des espaces très très polyvalents et une attention déjà à l'époque pour des espaces partagés, c'est-à-dire qu'on n'avait pas seulement des couloirs et des locaux de classe, mais également des espaces partagés.
Architecture soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
Il y a des classes en périphérie, mais dans les cœurs du bâtiment, on a des espaces qui sont suffisamment grands pour accueillir des activités libres. Et donc, les enfants ont des espaces de cours tels qu'on les connaît historiquement, donc plus frontaux, et puis des espaces d'expérience ou de partage entre élèves de différentes classes. Et c'est un mode de fonctionnement qui existe dans tous les espaces du collège. Et donc, c'est quelque chose qui était mis en place déjà fin des années 70, et donc qui aujourd'hui rencontre effectivement un succès de plus en plus important.
Quand vous dites Pascal Rayet, le maître d'ouvrage...
Le cahier de charge au départ ici était assez complet. Je pense de mémoire, mais c'est vrai que le mélange entre ce qui est écrit au départ et ce qu'on peut discuter avec un client avec le temps se fait. Mais de mémoire, le cahier de charge de base était relativement technique. Là où dans certains marchés aujourd'hui, on voit apparaître des parties pédagogiques beaucoup plus poussées. Mais néanmoins, nous, dès le départ, nous avons souhaité doubler la réflexion technique et la demande initiale d'une réflexion sur la pédagogie et sur le mode de fonctionnement de l'école telle qu'elle existe aujourd'hui et puis également de l'école telle qu'elle doit exister demain. Et effectivement, on a la chance d'avoir travaillé sur un grand nombre de projets d'établissements scolaires de différentes tailles, celui-ci étant quand même le projet le plus important qu'on ait pu faire. Et j'ai également la chance d'avoir mon épouse et pas mal d'amis qui travaillent dans l'enseignement et avec lesquels j'échange sur la thématique de la pédagogie à longueur de soirées, d'amis, etc. quoi. L'usage des bâtiments est quelque chose qui, dans notre travail au quotidien, est vraiment fondamental. On peut parler d'une maison d'habitation avec un client très spécifique. On peut parler de locaux de bureaux, de locaux de coworking et de bâtiments scolaires. Et à chaque fois, la manière dont on va vivre et dont on va faire fonctionner ces bâtiments est un des ingrédients fondamentaux pour l'architecture à mettre en place. Et donc c'est effectivement le cas ici aussi, quoi. Trois grands axes. Il y a un axe d'implantation dans le site, donc de dialogue avec un site qui est très unitaire. Dans un second temps, c'est la pédagogie, et donc c'est la fluidité des espaces, la polyvalence des espaces et la capacité à ce qu'un mode de fonctionnement aujourd'hui soit peut-être différent demain et soit peut-être encore différent dans 10 ans. Et donc ça a généré un plan extrêmement simple. Et le dernier regard, qui était un regard très important de ce projet, mais de tous les projets, c'est le budget.
Architecture, établissement scolaire à Herpan, province de Namur.
L'inscription dans un site, l'usage du bâtiment et son caractère constructif, simple et relativement économique. Ça reste trois axes qui sont typiques ici, mais qui sont typiques d'énormément de nos projets au quotidien. On a un hall d'entrée avec son sas. On débouche dans cet espace central ici, qui est un espace qui servira de réfectoire, mais également un espace polyvalent pour des fêtes d'école, l'accueil des parents, l'accueil le matin. La possibilité, si on le souhaite, d'emprunter l'escalier central qui mène directement à l'étage et qui permet de faire en sorte que les flux de circulation se gèrent de manière harmonieuse. De part et d'autre de l'entrée, la zone administration, secrétariat, local pédagogique, salle des professeurs. Et de l'autre côté, la zone technique, qui regroupe évidemment les sanitaires accessibles directement depuis la cour de récréation et toute la partie cuisine. Et alors, au niveau de ce plan du rez-de-chaussée, en partie arrière, un peu à l'écart, on retrouve en fait les classes des plus petits, permettant ainsi qu'ils soient au rez-de-chaussée en contact avec les espaces extérieurs. Ces deux classes des plus petits sont séparées entre elles d'une zone de service d'une part, avec les zones de change, possibilité de douche et de petits sanitaires, et d'une zone sieste également. Cet espace sieste est en relation avec la partie végétale du site, et donc à un moment donné avec une ambiance un petit peu particulière, tandis que les deux classes, elles, dialoguent d'une part avec l'extérieur du site du collège et d'autre part avec l'extérieur du bâtiment, mais la cour de récréation. Et on essaye autant que possible de retrouver des grandes transparences. Et donc effectivement, on le sent dans l'espace dans lequel on est ici. On retrouve effectivement cet espace qui est long, mais qui ouvre chaque fois des vues sur l'environnement. Et cette même structure se retrouve à l'étage, mais dans l'autre sens. Donc il y a une forme de rotation du principe du plan entre le rez-de-chaussée et l'étage.
Architecture, établissement scolaire. À Herpan, Collège Notre-Dame de la Paix, avec Pascal Rayet, architecte.
Les abords ont été intégrés dès le départ avec le travail d'Étienne Sellier, qui est un architecte paysagiste, le gérant de Atelier Paysage, qui est un bureau de paysage relativement connu en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc avec Étienne, qui est par ailleurs un ami, on a travaillé non seulement sur la partie cour de récréation, sur la périphérie de cette cour de récréation également, parce qu'on parlait au départ de ce site qui est complètement ouvert, mais la particularité d'une école maternelle, c'est qu'elle demande, de par la taille et l'âge de ses utilisateurs, les petits bonhommes de 3, 4, 5 ans, d'être réellement fermés d'un point de vue sécurité. Et donc il y a un travail également sur la fermeture de cette cour de récréation, un travail de ferronnerie qui trouvera son écho. On aura l'occasion de le voir quand le bâtiment sera terminé, également sur les circulations de secours qu'on a créées pour le bâtiment. Et par ailleurs, il y a eu également un travail sur le fait de renforcer la trame arbustive qui fait la limite entre le site, cette espèce de campus du collège Notre-Dame de la Paix, et l'extérieur du site. En même temps, il était également utile de faire en sorte que ces zones arborées puissent devenir des terrains de jeu pour les petits. Et donc il y a une possibilité, sous le contrôle des institutrices à ce moment-là, par temps correct, de passer d'un espace cours de récréation traditionnel à un espace jeu en sous-bois, dans des espaces plus végétalisés pour les enfants. Et donc voilà, cette frontière et cette réflexion sur l'intégration du bâtiment dans son contexte est évidemment fondamentale par rapport à un contexte bâti, qui est notre première action en tant qu'architecte, mais également par rapport à un contexte naturel. On est dans cette logique de simplicité, dans cette logique économique également, sur un bâtiment qui est relativement brut. Donc on a travaillé avec du béton apparent, des maçonneries apparentes rejointoyées. On doit amener, au-delà de ce côté brut, une forme de contraste avec certaines finitions un petit peu plus nobles qui vont en faire un lieu agréable à vivre. La façon dont on va travailler, c'est avec des revêtements de sol et de plafond où on va travailler la matière et la couleur. On va maintenir le béton pour des raisons de facilité d'entretien et en même temps parce qu'on a des surfaces très très importantes dans les espaces communs. Par contre, dans les classes en sol, on va travailler avec des résines polyuréthane colorées. En plafond, on va travailler avec des panneaux héraclites, donc de la fibre de bois agglomérée avec un liant de ciment. Et en fait, ces panneaux héraclites vont être teintés également. Et donc le travail qu'on a fait récemment avec toute une série de petites perspectives aquarellées, c'est de traduire la vision qu'on avait nous de ces ambiances intérieures en couleurs, avec un travail sur des couleurs relativement douces. Acoustiquement, en fait, je ne l'ai pas évoqué, mais la réflexion est bien présente, puisque tous les plafonds en héraclite vont remplir cette fonction acoustique. Alors, ce qui est intéressant dans les classes, et on est ici dans une classe type qui est répétée à de plusieurs reprises dans le bâtiment, c'est effectivement à chaque fois ce rapport à l'extérieur. Et ce qu'on trouvait aussi chouette dans un campus et dans cette présence de végétation, c'est que toutes les façades du bâtiment sont intéressantes. Dans le bâti existant, on a souvent des choix d'orientation très clairs. Ici, on a un bâtiment qui rayonne sur ces quatre façades pour dialoguer avec toutes les parties du site, la zone d'entrée, l'école primaire, la cour de récréation, la zone végétale. Et donc, c'est aussi très très chouette pour les enfants qui peuvent passer d'un espace à l'autre, de vivre en relation avec un extérieur qui est différent. Et on le voit aussi, les contacts entre classes sont possibles. Donc, on a ces passages qui vont permettre aux institutrices... on connaît tous le côté frontal de l'enseignement classique, même si en maternelle, on sait qu'on est plus autour de tables rondes à travailler en atelier. Mais c'est vrai que l'idée quand même aussi de plus en plus, c'est que la scission d'âge existe de moins en moins et que, en général, les institutrices fonctionnent souvent avec une première, deuxième maternelle et puis les troisièmes maternelles qui fonctionnent déjà souvent avec les premières, deuxièmes primaires. On va avoir un espace central qui va être beaucoup plus bas et des espaces classes qui vont pratiquement avoir cette hauteur-ci. Donc ici, dans les classes, on va avoir pratiquement 3,10 m, je pense, sous plafond. Et donc, on va avoir des volumes qui sont assez sympas. Par contre, dans les centres, là où on passe toutes les techniques, on va travailler avec des espaces de 2,40 m, et donc des espaces qui ont tendance à se projeter dans la longueur. Et de plus en plus dans les projets, en tant qu'architecte, on discute souvent des plans, on discute souvent de l'implantation. Mais la coupe est fondamentale et la perception qu'on a d'un espace en fonction de la hauteur sous plafond, elle est fondamentalement différente. Et donc, de plus en plus, quand l'opportunité se présente, entre autres avec des questions techniques comme ici, on aime beaucoup jouer là-dessus et se rendre compte que la sensation qu'on a varie très très fort avec ce paramètre-là. Quoi.
Architecture, établissement scolaire. Architecture, établissement scolaire à Herpan, province de Namur, et à Woluwe-Saint-Lambert à Bruxelles. Architecture, établissement scolaire. À Herpan, collège Notre-Dame de la Paix. Avec Pascal Rayet, architecte. Et ce sous-marin. Est-ce un sous-marin ?
Et on l'a appelé champignon, ses cheveux sous-marins. Nous, à l'époque, on l'appelait le blub. Ici, ils disent le blub. C'est une classe mobile. C'est un petit bâtiment qui était itinérant et qui, là, circule différemment. Il circule dans l'esprit des enfants en fonction des opportunités pour les profs. Une salle de réunion, une salle de langue, un atelier ponctuel de réflexion entre les uns et les autres. Et ça peut être un cinéma. Ça peut être donc c'est un petit espace qui est tout à fait transformable, qui est composé de tables qui sont intégrées dans le plancher, qui contient tout pour être autonome aussi. Donc sa forme est très ludique, on le voit aussi comme un signal. Et donc avec Isabelle Cornet, quand on l'a créé, on l'a vraiment fait pour pouvoir offrir une réflexion d'architecture avec les enfants. Donc ça, c'était le projet au départ. Et c'était un petit centre d'art et d'architecture qui se déplaçait dans les villes pour regarder la ville et regarder l'architecture. Il a eu son temps de gloire en étant déplacé à Courtrai, à Liège, un peu partout, à Nivelles, etc. Et puis là, maintenant, il est ici.
À Woluwe-Saint-Lambert, école Singelheim, avec Inès Camacho, architecte, et Dominique Paco, directeur de l'école.
Oui, c'était un petit centre itinérant d'art et d'architecture. Donc c'était un objet qui accompagnait des événements et qui se mettait sur l'espace public pour signaler qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Et puis c'était la version enfant d'une réflexion d'urbanisme, d'un contrat de quartier ou d'un événement d'art, un événement de design. Et alors là-dedans, on faisait des animations, hein, avec des réflexions sur justement le sujet de l'événement. Il y avait eu une exposition sur Bruxelles 2040 sur les enjeux de l'évolution de la ville. On avait accompagné toute une réflexion justement sur la façon dont on pense les villes, comment est-ce qu'on les a pensées avant, comment est-ce qu'on les pense aujourd'hui, quels sont les tenants et aboutissants. Et on faisait ça en atelier avec des réflexions, avec des maquettes, avec des fils, avec des cartes, avec plein de choses. Et donc c'est vraiment un petit laboratoire, quoi.
Architecture, établissement scolaire. Avec la voix de Lucien Kroll, enregistrée sur le site de la Mémé à Olivet-Saint-Lambert. Architecture, établissement scolaire, par Thierry Genicot.
L'école, en fait, elle se déploie depuis le boulevard, où il y a tous les terrains qui sont le long du boulevard. D'ailleurs, on voit une yourte, qui est une classe. Les terrains qui sont là-bas, c'est la cour de récréation des grands. En fait, c'est un espace gigantesque qui se trouve le long de la petite rivière. Donc, il y a une petite rivière. Cette rivière sépare le premier bâtiment dont on parlait, qui est le bâtiment qui est perpendiculaire à la rue, de ce grand terrain qui est dans une réserve naturelle. En fait, c'est une réserve naturelle. Et ce qu'on trouvait important, c'était d'offrir non seulement une vraie ouverture sur ce grand terrain, vers l'espace jeu des enfants, des grands-enfants, en fait, les primaires, avec la connexion avec la cour, qui est la cour des petits, en fait, qui est la cour des maternelles. Et aussi, et principalement aussi, c'est de repenser les entrées de l'école pour que le bâtiment qui va être construit, qui est son annexe, en fait, devienne la façade principale de l'école, parce que ce qu'on voit maintenant, c'est une cabine haute tension et un mur fermé avec quelques vélos en dessous d'une cahute en bois. Ce qu'on trouvait un petit peu triste.
Le projet d'extension de l'école Singelen est suivi par l'association momentanée entre le bureau d'architecture V+ et l'architecte Inés Camacho. Leur travail est le résultat d'un concours d'architecture accompagné par la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, au téléphone, Thomas Mohr m'a parlé de cette école comme une école libre, non confessionnelle.
Effectivement. En Belgique, il y a 4 réseaux différents. Le réseau d'école communale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, les réseaux libres. Et nous, on a un petit réseau qui s'appelle la FELSI, qui est la Fédération des établissements libres, subventionnés, indépendants. On est, je crois, une dizaine d'écoles primaires, 4-5 écoles secondaires, plus d'autres écoles d'art en supérieur. La grande différence avec les autres réseaux, c'est qu'on est en autogestion, puisque le pouvoir organisateur, ce sont des parents de l'école qui sont élus au PO. Et donc, ça permet beaucoup de liberté à la fois dans les projets pédagogiques, dans son projet d'établissement et dans le choix des enseignants, puisque on est une entité seule. Alors, on a d'autres problèmes, c'est qu'on n'est pas aussi bien subventionné que les autres réseaux, et donc un peu comme le libre. Et une des particularités de ce réseau, c'est que les écoles primaires et secondaires sont des écoles alternatives, actives, soit à Bruxelles, soit dans le Brabant wallon. Ça, c'est vraiment, alors soit de Crolly, soit de Freinet, mais on est vraiment dans ces pédagogies-là.
L'école, c'est un bâtiment existant des années 60 qui est perpendiculaire à la rue et qui s'ouvre sur cette cour. Toutes les classes sont là. Hein. Les rez-de-chaussée, c'est les maternelles. Le premier étage, c'est les primaires, les petites classes. Et le dernier étage, c'est les grandes classes.
Et le nom de cette école ?
C'est l'école Singelen. C'est le nom de la dame. Quand elle a créé l'école en 45-46, elle s'appelait Madame Singelen, qui n'était pas une école à pédagogie à l'époque, qui était une école de devoir pour les enfants en sortir de la guerre. Et donc, elle travaillait avec ces enfants-là. D'abord, rue des Adriatiques, et puis elle est venue s'installer ici. Et là, on a créé une école qui était à la fois au départ plutôt une école alternative, et puis qui a un peu dévié dans une école plus traditionnelle. Et puis moi, j'étais enseignant à l'école de Crolly, et donc l'équipe voulait faire de cette école une école active.
Avec Inès Camacho, architecte, et Dominique Paco, directeur de l'école.
Inclusive, c'était aussi important pour nous parce qu'on accueille une quarantaine d'enfants en situation de handicap, quels que soient les types, donc des enfants trisomiques, des enfants malvoyants, des enfants malentendants, enfin un peu tout le monde. Et donc ça fait 10 ans maintenant que je suis directeur de l'école, et donc il y a à la fois ce côté pédagogie active, et puis aussi ce qui me tient à cœur, l'idée de faire une école inclusive où chacun est accueilli, quelles que soient leurs différences, et on essaie de les mener le plus loin possible.
Les enfants attendent l'heure, les professeurs viennent les chercher et puis ils rentrent dans leur classe et s'organisent après en fonction de leur journée, parfois certains sports. Tous les cours sont en langue. Les enfants qui ont sport, ils font sport et langue en même temps, par exemple.
Et quand vous dites, Dominique Paco, pédagogie active?
Alors pour moi, derrière ça, il y a deux termes. C'est d'abord rendre l'enfant acteur de ses savoirs, de ses apprentissages et de la vie sociale de l'école. Important pour nous. Et donc être acteur, c'est prendre part vraiment à son apprentissage. C'est-à-dire ne pas simplement répondre aux questions des professeurs, mais de pouvoir l'enfant lui-même se poser les bonnes questions pour pouvoir apprendre. Donc être acteur et surtout donner du sens aux activités qu'on fait en classe. Ça, ce sont pour moi les deux points principaux. Et donner du sens, c'est partir de leurs envies, de partir de leurs projets, de partir de leurs questions. Alors on travaille avec des surprises où les enfants peuvent apporter des objets. On a des thèmes d'année aussi dans les classes. C'est une fausse idée de dire que l'enfant décide tout dans la classe. C'est pas ça la pédagogie active. La pédagogie active, c'est partir de l'intérêt de l'enfant, de l'intérêt du groupe, pour mener des projets, pour découvrir des choses, pour se poser des questions, pour sortir de l'école, pour aller en visite. C'est ça l'idée. Et à partir de tout ce que l'enfant ou le groupe peut amener, alors c'est à l'enseignant, alors à ce moment-là, d'y mettre le programme d'école, parce qu'on reste une école, mais c'est vraiment donner du sens. Et c'est construire un potager, c'est aller visiter un musée parce qu'on a entendu que c'était chouette, c'est créer des nichoirs, c'est s'occuper du déchet zéro. Donc tous les projets sont intéressants, et quand ça donne sens chez l'enfant, il y a effectivement un apprentissage qui se fait plus facilement, et on a des enfants qui effectivement ont du plaisir à aller créer un potager tout en étant dans de l'apprentissage. C'est vraiment ça.
L'objectif du projet, c'est principalement de remplacer ce bâtiment parce qu'il est de la même époque, mais il tombe sur lui-même, il y a vraiment un problème structurel. Donc on a fait un concours qui réfléchissait à la position de ce bâtiment et aussi à tout ce qu'on pouvait y mettre parce que bon, il est beaucoup plus petit, hein. Il fait rez-de-chaussée et donc il était question d'augmenter quand même la capacité de l'école pour avoir des classes et des ateliers, surtout des ateliers d'art, des classes, évidemment les salles de gym, hein, donc c'est un gymnase. Et donc la réflexion, c'était de voir comment positionner un gymnase, offrir une grande salle de fête ou une salle polyvalente, offrir des classes en plus ou des locaux laboratoires ou des ateliers d'art. Et des classes polyvalentes principalement pour pouvoir justement permettre aux différents enseignements de se jumeler ou de se réinventer en fonction de leur position et d'avoir toujours des options de demi-classe aussi parce qu'ils ont des principes de pédagogie qui sont souvent aussi en groupe ou avec des co-titulaires pour justement permettre des enseignements un peu avec d'autres vitesses ou avec d'autres sujets, d'autres thématiques.
Pour nous, l'importance aussi, dans l'idée de la pédagogie active, c'est que l'enfant est aussi acteur de sa vie sociale et donc prend une part importante dans l'évolution de l'école au niveau des cours de récréation, au niveau des ateliers, au niveau des activités parascolaires, au niveau des activités pendant les récréations, pour que vraiment, quand l'enfant rentre dans l'école, ça lui appartient aussi, pas uniquement qu'à l'adulte, et donc quand il y est bien, parce qu'il est acteur de pas mal de choses.
L'entrée principale qui est là, et l'entrée qui est à front de rue, qui elle, est en dehors du circuit protégé de l'école, qui est l'entrée administrative, qui permet aux parents et aux personnes qui vont directement travailler avec l'administration mais d'accéder sans devoir croiser aussi les enfants. Il y a une autre école à côté, c'est l'école intégrée. Je ne sais pas si vous êtes au courant. D'un côté, ce bâtiment-là, c'est l'école single lane, et cette école-là, ça s'appelle l'école intégrée. C'est une autre école qui partage des cours avec ses enfants, qui sont des enfants qui ont différents profils, on va dire, qui ont des différences. Je ne les connais pas tous, mais en général, c'est des enfants qui ne voient pas bien, qui n'entendent pas bien, ou parfois qui ont des problèmes aussi de mobilité. Et donc, l'école single langue travaille avec l'école intégrée de façon justement à intégrer la différence et donc à ce que nos enfants soient familiarisés avec toutes ces différences. Et donc, la pédagogie va avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a deux passages. Il y a un passage avec les escaliers qui sont là et il y a une rampe là.
Un tel enseignement tel que vous le décrivez induit des espaces.
Effectivement, induit des espaces, induit des interactions entre les locaux parce que nos classes sont ouvertes. Alors pas tout le temps parce qu'il y a des moments où il y a un travail plus explicite qui se fait dans les groupes, mais il y a vraiment une ouverture des classes, à la fois parce que dans l'école, au-delà des activités plus traditionnelles qu'on peut avoir dans une école, qui sont les cours de maths, de français, d'éveil, on propose à nos élèves des cours d'art. Donc on a deux locaux d'art avec deux profs d'art, plus un local de menuiserie. Donc les enfants sont amenés régulièrement à quitter leur classe pour aller faire leurs activités artistiques. On propose des demi-groupes en irlandais, dans d'autres activités qui effectivement amènent les enfants à changer de locaux. On fait énormément d'activités de parrainage entre les petits et les grands, que ce soit un parrainage plus affectif entre les grands et les maternelles, ou plus scolaire quand on fait des parrainages de lecture. Donc les enfants sont amenés à se rencontrer, à bouger dans l'école, à changer de classe. Et donc, c'est important pour nous d'avoir d'abord une ouverture et puis des locaux nécessaires pour justement pas simplement avoir sa classe, l'enseignant et des enfants dans le local. Étant donné qu'ils sont vraiment acteurs de leurs apprentissages, ce n'est pas le maître qui va déverser un savoir pendant une journée. Ils sont amenés à quitter souvent et parfois à travailler dans les couloirs parce qu'ils vont préparer quelque chose à deux ou à trois. Donc il y a vraiment cette envie de s'ouvrir, pas simplement de créer 18 salles parce qu'on a 18 classes.
C'est vraiment un côtoiement ouvert, en fait, ce qu'on sent, c'est ça. Et donc, ça fait partie aussi d'une réflexion, quoi. Et donc, dans la première réflexion du projet, on a dû justement très vite comprendre les enjeux de cette juxtaposition d'écoles et aussi essayer de trouver quelque chose d'intelligent qui gère ces flux. Parce qu'en fait, finalement, une école, c'est aussi des flux, c'est des passages, c'est des temporalités très courtes où beaucoup de gens, en une fois, se trouvent à tel endroit, doivent passer à un autre endroit. Et puis, avoir cette possibilité d'être toujours ouvert sur l'extérieur, d'avoir des relations à un paysage, des relations à l'autre, des vues sur les autres. Et donc c'est un petit peu ce qu'on a eu comme réflexion.
Et quand vous dites « on » ?
On, les architectes ensemble, avec les interlocuteurs qui sont les maîtres d'ouvrage. Hein, donc c'est, le « on », c'est un groupe de personnes qui réfléchissent au dessin d'un bâtiment, donc c'est plusieurs architectes. Et puis les équipes de l'école qui étaient aussi nos guides, hein, qui nous ont donné un cahier de charge très précis avec des descriptions de fonctionnement, avec des profils de professeurs, avec des attentes des professeurs, avec des attentes même au niveau même de l'alimentation, des fonctionnements, de la façon dont on se nourrit dans cette école, la façon dont on se déplace, dont on enseigne, dont on regroupe ou dégroupe les choses. Il fallait d'abord se familiariser avec le système.
Architecte que vous êtes ?
Oui.
Et rappelez-moi votre nom ?
Inès Camacho.
La question de l'école en tant qu'architecte, c'est une question qui importe pour vous.
Oui.
Et ce que vous m'expliquez, vous l'expliquez aux architectes ?
Oui, oui. Évidemment, on avait fait un cahier de charge assez prononcé. Et ce qui a été extrêmement bien par rapport à la communauté française, c'est qu'on a eu énormément d'architectes qui sont venus. C'était important pour moi que les architectes viennent visiter l'école pour sentir un peu l'âme de l'école.
Oui, parce que je pense qu'il y a vraiment à trouver aujourd'hui des formules par l'espace, leur donner un confort et une ouverture d'esprit qui accompagne, leur réflexion. Donc ça accompagne, au quotidien, je pense qu'il y a un impact. Les endroits où on est, de la façon dont on vit, dont on peut échanger grâce à, je ne vais pas dire l'intelligence des espaces, mais oui, il y a quelque part cette flexibilité, cette polyvalence qu'il faut intégrer. Oui.
Et donc, ils sont venus visiter l'école, et ils sont venus visiter l'école quand les enfants étaient présents, pour qu'ils se rendent compte de tout ce qui s'y passait en dehors des classes.
Quand c'est les grands moments de l'année, ça devient vraiment un espace qui, sur tout son rez-de-chaussée, devient l'espace qui embrasse cette cour des petits, mais aussi s'ouvre sur la vallée de la Wolu, donc l'espace avec les arbres à l'arrière. vers le boulevard. Le système d'entrée a changé. Et donc il y aura un bâtiment qui va être collé à celui-ci, de façon à ce qu'on voit beaucoup plus finalement un pignon sur rue de l'école et qu'on comprenne que finalement l'école Singuelen, ce n'est pas un petit drapeau sur un mur blanc, mais ça devient une façade avec des locaux qui sont les locaux emblématiques de l'école aussi, donc des locaux qui parlent de ce que l'école est ou comment elle fonctionne finalement avec les enfants qui y sont. Et donc on avait une salle de gymnastique à placer, mais on trouvait que c'était pas du tout adéquat de la mettre au rez-de-chaussée, parce que les enfants au rez-de-chaussée, ça veut dire qu'on devait fermer. Une grande vitrine avec des enfants qui font de la gym, c'était pas très intéressant. Donc on a mis la salle de gym tout au-dessus. Et on a mis au rez-de-chaussée la bibliothèque, parce qu'en fait, aux heures de récréation, autour de cette cour des petits, les enfants vont à la bibliothèque chercher leurs bouquins. Et donc, on trouvait que l'espace et les bibliothèques, ça devient un plus grand espace. Donc, des espaces classe pour les petits-enfants au rez-de-chaussée côté cour, mais côté rue, une bibliothèque en vitrine, mais un peu en décalé, parce qu'il y a un petit parvis, il y a un espace pour ranger les vélos.
Venir voir au réfectoire, venir voir comment nous, on imagine les repas, venir voir comment nous, on imagine la psychomotricité, comment nous, on imagine la salle de gym, comment est-ce qu'on imagine les cours d'art. Et donc, ils sont venus visiter l'école pendant 2-3 bonnes heures pour venir sentir un peu l'atmosphère de l'école. C'était évident pour moi que ça devait passer par là pour que je puisse avoir des projets qui puissent être en adéquation avec notre pédagogie. Alors effectivement, malheureusement, comme on n'est pas subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles et que chaque euro qui va sortir pour ces bâtiments, ça va être l'école qui va devoir le trouver. Donc c'est ça là aussi l'aberration des différents réseaux.
L'entrée qu'on voit là aujourd'hui, elle se déplace entre les deux écoles pour justement regrouper les accès ou en tout cas donner cette sensation que les deux écoles finalement travaillent ensemble déjà aussi depuis leur desserte. Le grand terrain, dans un temps plus ou moins proche, deviendra aussi l'endroit qui pourra desservir le plus grand nombre de voitures, parce que cette rue est assez encombrée le matin. Et donc une réflexion pour un kiss and ride sur le boulevard, ça se fait avec la région. Et donc l'idée est d'avoir plus tard une desserte principale sur le boulevard, et donc les enfants traversent. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une passerelle qui passe au-dessus de la rivière. Donc on passerait la passerelle au-dessus de la rivière pour rentrer dans l'école le matin et desservir alors le grand bâtiment existant avec le nouveau bâtiment, parce que tous les couloirs et le grand bâtiment et le futur bâtiment seront tous tout à fait connectés à tous les niveaux, avec une nouvelle cage d'ascenseur et une nouvelle cage d'escalier au niveau de l'entrée qui aujourd'hui est cette entrée extérieure.
On nous demande et on nous dit qu'il n'y a pas assez d'écoles à Bruxelles et puis on ne nous donne aucun moyen pour pouvoir les construire. Et si j'avais pu effectivement encore aller plus loin dans la réflexion du bâtiment et d'aller pouvoir visiter les bâtiments qu'il y a en Finlande, dans les pays scandinaves, où là vraiment ils ont cet espace très ouvert. Mais bon, financièrement, ce n'était pas possible. Donc on a dû quand même limiter un peu nos projets. Mais par rapport au travail que je vois et par rapport au bâtiment qui a été prévu, les architectes ont bien respecté l'idée de l'école et l'atmosphère de l'école.
Pour terminer l'histoire des façades, etc., le premier étage, ce sont tous les ateliers d'art. Donc, les ateliers d'art, ça faisait partie quand même d'une réflexion. Les enfants, en fait, ils font des œuvres d'art dans cette école. Quand on conçoit une œuvre d'art, on rassemble tous les enseignements. Et donc c'est un moment critique de l'enseignement, c'est un moment où on produit des choses qui sont aussi le fruit d'autres logiques ou d'autres savoirs. Et finalement, par l'œuvre, on concentre en un objet, en quelque chose, un dessin, un objet, aussi le fait d'observer, une observation et une conception, différents savoirs. Et donc, pour nous, il était essentiel aussi qu'on puisse voir ça depuis la rue. Et donc, les ateliers d'art seront au premier étage, comme aussi avec des pièces ouvertes côté nord, vue sur les arbres, on entend les oiseaux, et on est aussi dans ce rapport à la rue où on peut montrer aussi qu'il y a des enfants, qu'il y a des présences, il n'y a pas que des petites fenêtres avec des enfants qu'on ne voit pas, mais peut-être aussi des grandes fenêtres avec des choses qu'on peut voir, qui sont pendues ou exposées, ou en tout cas qu'il y a une expression de ce qui se fait de l'école, voilà, sur la rue Chapelle-Auchan.
Oui, à vous écouter, je me suis demandé si À un moment donné, un ou un autre, les enfants n'avaient pas construit leur école rêvée.
Si, alors, évidemment, on a construit. Alors, par exemple, on a des cours de récréation qui ont été entièrement repensés par les enfants. Ça, c'est le projet d'école. Comme je parlais d'acteurs de l'apprentissage, aussi de l'acteur de la vie sociale, on a un terrain où ils ont pensé à leur cours de récréation de rêve. Alors, on a eu de tout. Hein. On a eu un magasin de bonbons, on a eu une piscine, etc. Puis on a réduit ça et ils ont créé leur cours.
Architecture, établissement scolaire, avec la voix de Lucien Kroll, enregistrée sur le site de la Mémé à Olivet-Saint-Lambert.
C'est des médecins, pas des architectes. Alors, comment est-ce qu'ils voient l'espace? Comment est-ce qu'ils s'organisent? Et je me suis dit, le mieux, c'est de faire un modèle à casser. C'est une technique presque. On fait la chose, mais n'importe comment, mal, plutôt mal, avec des défauts. Et on le montre en disant c'est pas bon. À ce moment-là, ça s'amorce. Alors ils ont dit, mais non, c'est pas du tout comme ça. Donc, là, ça marchait bien. Mais je me rappelle qu'ils ont dit, mais enfin, je ne sais plus le prénom, Françoise et Anne-Marie vivent ensemble, il faut une chambre à deux, il faut faire ça. Ils ont dit, allez-y. Alors ils ont tout changé et j'ai recopié strictement ce qu'ils ont fait, avec les défauts surtout qui sont les preuves vivante finalement de ce que des amateurs, c'est-à-dire des gens sincères et pas des payés pour, comme sont les architectes, décident de mettre de l'ordre dans les choses. Et alors, ça s'est fait, puis il y en a un qui a dit, mais pour descendre de l'étage, il y avait deux niveaux là-dedans, on fait comme les pompiers, une colonne. Et en fait, j'ai cette colonne, ça marche très très bien, c'est très facile, n'importe qui peut le faire. Et tout ça s'est fait morceau par morceau. Et puis il y en avait qui avaient collectionné toutes sortes de vieux meubles et de portraits de la royauté, et des choses comme ça, mis à l'envers. Et ils ont créé un décor, j'ai des photos qui sont ahurissantes, extrêmement habitables. Moi j'ai fait les escaliers, simplement des choses qui tournent, simplement pour communiquer, puis en dessous des verrières et tout ça. C'était une créativité incroyable. Impossible à répéter ou impossible à provoquer. Ça se fait tout seul ou ça se fait pas.
L'école, c'était compliqué de vraiment mettre les enfants dans le travail. Par contre, il y a des pièces qui ont été réfléchies par rapport aux envies des enfants. Par exemple, une salle multifonction qui pourrait être une salle de fête, qui pourrait être une salle de rencontre. Par exemple, la bibliothèque, ils trouvent trop petite parce que pour l'instant, elle fait 30 mètres carrés. Donc, on a tenu compte du fait qu'ils avaient envie d'un endroit de multimédia, d'une grande bibliothèque, parce qu'on a la chance d'avoir une bibliothécaire qui accueille les enfants à 10h, à midi, pour ceux qui ont envie de lire. Donc là, on a tenu compte de leurs envies. Mais malheureusement, au niveau financier et au niveau espace, on était tenu quand même à des objectifs qu'il ne fallait pas qu'on dépasse. Et moi, quand je propose un projet aux enfants, je dois pouvoir y répondre. Alors, pas dans l'absolu, pas à tout, mais je ne peux pas non plus me lancer dans une demande chez les enfants pour leur dire après, c'est gentil, on comprend, mais on ne peut pas au niveau budgétaire. La cour a été un bon exemple parce que là, je savais ce que je pouvais faire et ça, j'ai pu mener à bien ce projet-là avec les élèves.
Oui, et en vous posant cette question, je pensais à ce qui s'est passé ici tout près, d'ailleurs, à la Mémé, hein, dans les années 70, avec la faculté de médecine et l'architecte Lucien Kroll, où ce sont les étudiants qui ont dit dans quel logement ils voulaient vivre.
Ah oui, c'est bien. C'est vraiment une bonne idée.
C'est les médecins qui ont vu les rapports des choses, ils sont mobilisés pas à analyser, mais à concentrer les informations pour en voir le mécanisme. Nous, non. On dessine des choses pour être célèbre, ça n'a aucun sens. On a vécu 2 ans extraordinaires. C'est les 2 plus belles années de ma vie, professionnellement parlant. Il y en a d'autres. Mais on se voyait à peu près toutes les semaines. À 1, à 10, ici à 30, et Simone avait préparé un repas, ils étaient assis par terre, on avait mobilisé le tout, écarté, etc. Et c'était divin comme confiance. Avec des inconnus qui se remplaçaient, on s'est fait des amis, et puis on a vu les enfants, beaucoup plus tard, ces jeunes, etc. Et c'était des gens porteurs d'un idéal déjà incorporé à l'action. Donc, moi, j'étais ravi. Je n'ai pris aucune décision de forme, de détail, de quoi que ce soit, sans leur montrer, demander leur avis. Et ils ont dit, et j'ai changé souvent des choses, parce qu'ils avaient raison. Ils n'étaient pas architectes, donc c'était important. Je suis déformé, évidemment, par le métier. Ça s'est dit dans le quartier. Ça s'est répandu dans les professions. Quelque chose se passe. On me téléphonait de l'étranger en disant, il faut venir voir le nombre d'autocars d'architectes étrangers que j'ai cornaqués à travers la mémé. C'est incroyable. Tout ça, c'est les 2 ans.
C'est un moment où le comportement devient forme.
Pourquoi il y a des éternites en losange? Parce que c'est un matériau vulgaire, éternel, presque, comme son nom l'indique, pas cher, qui a couvert tous les pignons belges qui étaient exposés à la pluie et qui étaient mal isolés. Et ça a toujours été vulgaire comme système. Et j'ai voulu, pas le réhabiliter, mais m'en servir de façon neutre, parce que c'est belge, parce que c'est populaire ici.
Les enfants, ils participent au moment où on mange, on est ensemble, on se sert, on dessert, il y a toutes des charges. Et les enfants sont tout à fait responsabilisés par rapport à l'organisation même du repas. Et donc dans la façon dont le réfectoire va fonctionner, il y a aussi des moments où on doit pouvoir aller servir. Donc à côté, on est chez soi, on mange ensemble, on dépose la casserole sur la table, on sert les assiettes et on s'installe et on mange. Donc pour le moment, ça se fait dans les classes, parce qu'il n'y a pas assez de place pour pouvoir manger tous ensemble ou pouvoir offrir des services. Je n'ai pas encore tous les secrets, les tenants et aboutissants, mais en tout cas, dans la réflexion, c'est d'offrir un espace, comme une petite guinguette. Hein. Quand le chef a préparé tous ses plats, il y a une espèce de salade bar, un endroit où on a les plats qui sont prêts à être servis pour les plats chauds, etc. Et donc chaque groupe d'enfants vient, fait son service, et puis mange ensemble. Puis il y a aussi le desservice, donc il faut dédresser, ramener, etc. Donc ils sont investis aussi dans cette partie-là. Non seulement dans la façon dont on mange, mais aussi dans la façon dont on organise ensemble la façon dont on va manger. Ça, je trouvais très bien aussi. Et donc, ces espaces sont les espaces de garderie après, les espaces d'atelier polyvalent après, les espaces de sieste pour certains, les espaces de... Donc, il y a plein de locaux qui sont finalement multiples. Et donc, la réflexion, elle est aussi dans justement ce rapport convertible ou la façon dont on peut, à tout moment, avoir des espaces pour pouvoir jumeler des réflexions, se rassembler autrement en dehors des espaces prévus. C'est pour ça que les couloirs, par exemple, sont des espaces très larges. Ce sont des espaces en soi. Les fonds de couloirs, les raccords de classes et de couloirs deviennent tout d'un coup des extensions possibles, des espaces habitables, des espaces où on peut exposer, montrer, parler.
Architecture, établissement scolaire. Architecture, établissement scolaire à Herpan, province de Namur, et à Woluwe-Saint-Lambert à Bruxelles.
On ne touche pas tellement aux bâtiments existants parce qu'on concentre effectivement tous les budgets sur l'intervention neuve, mais on doit quand même pas mal ouvrir le rez-de-chaussée, repenser les cuisines, repenser les desserts, toute la façon dont on va du réfectoire en faire un local de fête, mais aussi un local polyvalent, une façon de mieux pouvoir aussi servir les enfants avec les heures de cantine. Et donc ça, c'était quand même aussi le nœud de la réflexion, c'est que ici aussi, quand on mange, on apprend. Donc il y a un chef qui cuisine merveilleusement bien, qui s'appelle Pierre, qui est une personne très investie et qui a... En tout cas, moi, j'apprécie énormément tout ce qu'il fait. C'est extraordinaire, les saveurs qu'il offre aux enfants.
Architecture, établissement scolaire. À Herpan, Collège Notre-Dame de la Paix. Avec Pascal Rayet, architecte. À Woluwe-Saint-Lambert, École Singelheim. Avec Inès Camacho, architecte. Et Dominique Paco, directeur de l'école. Architecture, établissement scolaire, avec la voix de Lucien Kroll, enregistré sur le site de la Mémé à Woluwe-Saint-Lambert. Architecture, établissement scolaire, par Thierry Genico.
On peut faire autant de la géographie avec des maths avec de la chimie avec la cuisine avec de l'esthétique. Enfin, à mon avis, on peut faire la couleur. Donc je pense que le sens, c'est vraiment le centre de la réflexion ici. Et donc on essaie d'en donner aussi dans notre architecture. Hein. On essaie de vraiment retrouver à tout moment la possibilité d'y faire sens.
Mais ce que vous dites, Inés Camacho, ici, c'est une pensée de l'architecture qui vient d'une conception de l'enseignement, ou bien c'est un mariage de l'un avec l'autre?
C'est sûrement un mariage de l'un avec l'autre. Hein. Ici, on est dans le global tout le temps, donc ce sont des allers-retours et des considérations qui ne s'interrompent jamais pour qu'on n'oublie rien et qu'on soit sûr qu'à tout moment, le maximum de choses soit possible. Que ce soit à l'endroit où on fait de la psychomotricité ou de la gymnastique, où on sert des repas, où on fait de la cuisine, où on est en classe, où on est en train d'être dans un laboratoire. Je pense qu'à tout moment, il y a la possibilité d'y faire autre chose et d'y être multiple. Et c'est comme ça qu'il fonctionne ici, je crois. Le côté multiple, c'est, je crois que ce sont les intelligences d'aujourd'hui aussi. Les enfants sont multiples, on ne peut pas continue à croire au compartimentage du savoir. Moi, je crois qu'effectivement, on doit pouvoir se spécialiser dans une société, mais je pense que l'ultra-spécialisation, elle est nécessaire pour atteindre des objectifs très précis. Mais je crois que le plaisir, il vient aussi de pouvoir sortir de sa spécialité et à tout moment, d'être dans le partage, dans l'échange. Et c'est ce qu'on apprend, je pense, ici aussi. Hein. C'est d'abord aussi le savoir partagé, le savoir après en relais avec d'individu à individu.
Architecture, soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, salue l'architecture.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.